Salut Greg.
Salut Jean-Fred, comment vas-tu?
Mais ça va bien, tu n'es pas avec moi dans le studio, tu es en vadrouille, c'est juste?
Exactement, je suis à Ambry pour faire des interviews, je suis à Zurich pour faire 2-3 interviews avant la finale, préparer 1 ou 2 sujets, des choses autour des Zurich Lions, pendant que mon collègue Mathias est à Lausanne pour des sujets autour de Lausanne. Bref, on commence à écumer la Suisse pour trouver 2-3 sujets à faire autour de cette finale, parce que depuis notre dernier épisode, il y a eu 2-3 évolutions. Lausanne est qualifiée pour la finale, qualification en 5 matchs, mais pour en parler, justement, on a un invité, Chris Geiger, qui est journaliste pour SportsCenter et qui plus principalement suit le Lausanne HC, notamment pour 24 heures. Salut Chris.
Salut Greg, salut Jean-Fred.
Salut Chris.
Comment allez-vous?
On va bien.
Ça va très bien. Chris, c'est juste, je t'ai bien présenté parce que je viens de cette structure-là, mais ça peut évoluer. Si je dis que tu couvres principalement le Lausanne HC, on est pas mal.
Ouais, exactement. Ouais, plutôt pour le 24 heures du coup. Et du coup, j'avais pas trop cette étiquette de couvrir les deux clubs romands en même temps. Donc, c'était mieux pour moi.
Moins risqué. Allez,
c'est ça.
Les séries sans romands, on les aime tellement. Comment toi, tu vis, déjà, on va dire d'un point de vue professionnel et on va dire journalistique, d'avoir un club en finale? J'imagine qu'à l'interne, ça doit bouillonner maintenant d'avoir cette série qui se profile.
Ouais, bah écoute, je vais te dire que c'est déjà plusieurs saisons là, de suite assez rêvées pour la presse romande, hein, parce que l'année passée, j'avais eu la chance de courir la finale de Chaudefonds avec le barrage contre Ajoie aussi, donc c'était assez fou. En février dernier, il y avait le titre de Genève en Champions League, aussi le titre en championnat, maintenant Lausanne en finale. Je crois qu'on est en train de manger le pain blanc de toutes les générations précédentes des journalistes romands, quoi. Donc c'est plutôt pas mal.
Ça, c'est clair.
On est assez chanceux, effectivement. On a des séries, une finale 100% romanda l'année passée. N'en déplaise à ceux qui voient pas bien comme roman, mais le débat a été trop souvent fait, c'est bon, on se l'épargne cette année. Demi-finale 100% roman d'aujourd'hui, Lausanne en finale. Déjà, moi j'aurais une première question pour toi Chris, vu que t'as pris le pouls du Lausanne HC un peu toute la saison, nous on l'a pris aussi, mais toi t'étais peut-être au plus près du patient, on va dire. À quel moment tu t'es dit, tiens, mais cette équipe, elle pourrait peut-être faire quelque chose de sympa, sans parler de finale, de titre, de pas titre, peu importe finalement le résultat définitif, mais à quel moment tu as senti que ça cliquait bien?
Bah, déjà, je me souviens de cette période d'octobre où ils ont fait, je crois, 8 défaites en 10 matchs, ou 9 défaites en 10 matchs, conclues avec le tout dernier match d'octobre avec la blessure de Hughes contre Berne, un sombre dimanche soir à 20h. Mm-hmm. Et là, c'était le plus bas de la saison avec les craintes de revivre le même exercice que celui d'avant. Et ensuite, en fait, j'ai pas vraiment senti de déclic, mais petit à petit, les victoires s'enchaînaient. Et au fil des semaines, Lausanne a remonté au classement au point de caracoler dans le trio de tête depuis, je pense, début janvier, peut-être même avant. Et ouais, il n'y a pas vraiment eu de tournant, c'est juste cette fameuse thèse de prendre match après match et le fait d'insister sur le côté bâtisseur de Ward. Au final, bah, on a vu que les briques se mettaient bien en place. Quoi.
Ouais,
et de votre côté, vous avez vu peut-être un tournant à un moment précis?
Bah, moi, je te rejoins, je te laisse la parole juste après, Jean-Fred. Là où je te rejoins, Chris, et j'aime bien ce que tu dis, c'est qu'en fait, le jour, et on l'a thématisé, je pense, quelques fois, et toi et moi, dans nos médias respectifs, le jour où Hughes se blesse, tu dis, oulala, ils vont partir sur le marché étranger, qui sont les gardiens disponibles, oh mon Dieu, il n'y a pas grand monde, ah, les Finlandais, Lauri Kainen de retour, etc. Et en fait, pas du tout. John Fust, il nous dit non, mais on va déjà jouer avec Kevin Pachambou et puis on verra ce qui se passe. Alors, évidemment, j'ai pas envie de faire de parallèle avec un futur trop récent du Lausanne HC, mais par contre, j'avais envie de faire un parallèle avec finalement un club qu'on vante pour son calme perpétuel, le HCBN. Et je ne suis pas en train de dire que Lausanne nous fait une saison à la HCBN. Par contre, dans la façon de gérer les choses, finalement, on a vécu une sérénité. Je compare à Bienne parce que c'est quand même souvent là où, quand il y a eu des crises, c'était seulement dans les médias les crises et jamais vraiment dans les bureaux du HC Bienne, à part cette année avec un mauvais engagement de coach, mais les années précédentes, ça n'arrivait jamais. Et là, finalement, on a vécu une saison normale à Lausanne. Et finalement, c'est cette normalité, moi, qui m'a beaucoup plu cette saison, je dois dire.
C'est juste. On n'a pas eu de tempête comme parce que des fois même quand il y avait pas Svoboda, c'était il y avait toujours un petit truc. Ça s'est pas passé comme ça. J'ai bien aimé aussi Chris qui dit l'évolution, finalement c'est comme si c'était un peu sous-jacent, on l'avait pas forcément tellement vu arriver. J'ai l'impression que Greg, nous on regardait au fur et à mesure les stats avancées, puis on en venait quand même à la conclusion que le jeu à 5 contre 5 était vraiment solide. On n'en parle pas depuis que le mois de janvier, on en parle depuis avant. On avait remarqué aussi que le boxplay était pas mal. Après, c'est des instantanés à un moment de la saison et on se dit chaque fois, parce qu'on a un petit peu d'expérience, que les playoffs, c'est un autre animal. Oui, c'est bien joli d'avoir un powerplay qui est flambant neuf ou qui flambe en saison régulière. Regardons en playoffs. Il se trouve que, par exemple, Fribourg, c'est un petit peu ce qui s'est passé. Le boxplay lausannois, par contre, a été extrêmement bon tout au long de la saison et surtout à partir du mois de fin octobre. Et il l'est toujours maintenant. Donc, c'est aussi en partie une des choses qui a permis à Lausanne de passer ce tour-là, alors que Fribourg a calé. Mais on a l'impression que ça s'est fait petit à petit et qu'au fur et à mesure, et au mois de janvier, tu pouvais te dire... Ouais, c'est pas mal, mais on avait l'impression que ce qui était déjà pas mal pour Lausanne, c'était de se qualifier pour les playoffs, et puis après de se dire, déjà de passer les quarts de finale, ça serait pas mal. Et puis voilà, c'était déjà une saison réussie. Puis après, il s'est passé ce qui s'est passé contre Fribourg, on s'est dit, ah ouais, non, mais là, ils sont vraiment pas loin de faire quelque chose de mieux. Et finalement, ils ont éliminé Fribourg.
Ouais, si tu te rappelles la série contre Davos, il n'y a pas si longtemps finalement. Lausanne était venu 2-3 dans cette série et se rend à Davos avec le dos au mur. Je sais que nous, dans ce podcast, on avait dit non, mais Lausanne a tout pour bien faire dans cette série. Elle devrait s'en sortir. Moi, je me rappelle que à ce moment-là, je suis assez confiant que Lausanne va s'en tirer contre Davos, si tu te souviens.
Absolument.
Parce que, justement, il y avait les indicateurs, comme tu l'as dit avant, une bonne équipe à 5 contre 5 et un boxplay qui est bon. Si on fait la comparaison avec 2 ans en arrière, quand Fribourg élimine Lausanne en quart de finale, c'est une équipe qui est aussi bonne à 5 contre 5, mais qui se fait crucifier par les situations spéciales, en l'occurrence par rapport au play fribourgeois de feu. Là, finalement, cet aspect-là qui avait si bien fonctionné pour Fribourg il y a 2 ans n'a pas fonctionné là. Et au contraire, Lausanne a eu une profondeur et un jeu à 5 contre 5 qui a fait la différence. Et un facteur, et moi j'aimerais bien t'entendre sur ce sujet, Chris, le facteur Connor Hughes qui a été déterminant dans cette série contre Fribourg, mais globalement dans ces playoffs. L'émergence ou l'arrivée de Connor Hughes, toi tu la lis ou tu la sens comment?
Moi, j'aime bien revenir au moment où il l'engage, en fait. C'est quand Berra est blessé et que Hughes multiplie les matchs avec Fribourg. Et on se dit, forcément, ça peut être que Lausanne qui engage un gardien comme ça, qui n'a un peu aucune expérience en tant que titulaire, parce qu'il flambe. Et puis alors, du coup, le premier club qui l'engage, c'est Lausanne. Et force est de constater qu'une année plus tard, c'était un sacré move. Et en fait, là, toute cette saison, et encore plus depuis qu'il est revenu de blessure, il est d'un calme olympien devant ses filets. Il multiplie les arrêts, parfois de manière très peu académique, mais en fait, c'est un style super efficace, très agressif, très devant les gardiens adverses, devant les attaquants adverses, pardon. Et puis, en fait, il ne fait que de me surprendre, quoi. Si on m'avait dit qu'il allait faire 2 blanchissages en play-off, qu'il sera là contre Fribourg, je crois, passer 97% d'arrêt de tête, franchement, c'est assez incroyable. Et puis après, tu as quand même peut-être ce luxe pour lui. Il sait qu'au cas où, il y a quand même Page derrière. Et que je pense pour le, pour Ward, pour Huet, etc. C'est quand même un luxe d'avoir un deuxième gardien de ce niveau aussi pour que son numéro 1 n'ait pas autant de pression que peut-être qu'un Bera, que même s'il est dans un mauvais soir, tu peux pas vraiment le sortir. Donc je trouve ouais, c'est assez incroyable bah, le niveau qu'il a réussi à atteindre, quoi.
J'ai une question pour vous, parce que c'est un de mes anciens collègues qui m'a fait cette réflexion en me disant, Connor Hughes, cette saison, c'est un peu le Maier de la saison dernière. Puis j'étais
Ah,
là.
c'est marrant, j'allais en parler en fait juste après d'évoquer Robert Maier. Donc, sous quelle forme il te dit ça?
Ben, il dit, il arrête tout en fait, il est en feu. Et je me disais, ouais, mais quand même, Robert Maier avait. À une autre expérience que Connor Hughes. Connor Hughes, ce qui nous, en tant que suiveur, ce qui nous arrêtait un petit peu, c'est de dire, ouais, bon, bah, c'est ses premières séries, voyons comment il va réagir. Tandis que Robert Maier, on était complètement OK qu'il puisse sortir tout d'un coup quelque chose parce qu'on savait ce dont il était capable finalement.
Ouais, là où je te rejoins pas, où je comprends la comparaison, et c'est pour ça que j'allais la faire juste après, c'est qu'en fait, si tu te souviens l'année passée, combien de fois durant les playoffs on a dit, ouais, mais Robert Maier, à force de jouer avec le feu, de sortir derrière ses cages, il y a bien une fois où ça va pas passer, où il y aura un mauvais match, où il y aura un problème, où du coup Genève va avoir un problème de gardien avec Robert Maier. Et on est des journalistes, on va dire, un peu expérimentés à force, mais là, je trouve qu'on a aussi appris que les playoffs, et tu le dis trois fois par épisode, c'est un autre animal, donc moi je le dis moi aussi une fois. En fait, en playoffs, des fois, tu pars dans l'irrationnel. Et là, avec Connor Hughes, bah, il me l'a fait très gentiment remarquer. Je l'ai écrit comme ça dans l'interview, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, mais il me dit, tu m'avais dit, t'avais dit que j'étais désavantagé par rapport à Schliemann en quart de finale, et je l'aurais fait aussi. Mais regarde, c'est possible de quand même de faire une bonne série contre lui. Je te l'avais, t'as complètement raison. J'ai pas eu le temps parce que ça s'est trop enchaîné vite entre les actes 7 et le début des demi-finales. Mais si j'avais dû mettre les évaluations des deux gardiens, j'aurais forcément mis un petit avantage à Fribourg à ce poste-là parce que Reto Berra par rapport à Connor Hughes. Mais au final, les playoffs, ça dure quelques semaines et sur quelques semaines, tu peux avoir justement un peu d'irrationnel qui entre en jeu et de voir un Connor Hughes à ce niveau-là. Je dis pas que c'est irrationnel, mais il faut accepter que sur une période donnée, il n'y a pas vraiment de logique. Et encore plus, je trouve, devant les filets, un poste qui est aussi volatile que celui de gardien.
Mais est-ce qu'on n'a pas aussi finalement un peu tendance à. Nous, on aime aussi pas mal le passé et l'histoire. Et quand on voit gardien, on se dit, bon, ben, Berra, Giannoni. Et au final, ben, les deux, ils se sont fait sortir en demi-finale. Et Schliemann n'est pas passé loin, mais il est dans une équipe qui était peut-être un poil moins forte avec Davos. Mais il est pas mal. Connor Hughes est pas mal. Est-ce qu'il y a un glissement de gardien aussi qui se fait? Et on doit accepter finalement que maintenant Berra et Giannoni, bon, bah, ils sont, je vais pas dire en bout de course, hein, mais parce qu'ils peuvent toujours nous surprendre, mais qu'il y en a d'autres qui sont là maintenant pour prendre leur lait.
Ouais, peut-être qu'on est à un moment charnière dans la période pour les gardiens. Mais ce que je note surtout, c'est qu'il y avait trois gardiens suisses sur les quatre demi-finalistes et ça reste quand même quelque chose d'important pour l'équipe de Suisse. J'espère juste que si Hughes est par hasard convoqué en équipe de Suisse pour faire le championnat du monde, bah, qui joue pas le quart de finale, du coup, si on fait le parallèle avec Maier, quoi. Non, mais concrètement, c'est quand même cool enfin, je pense que les supporters lausannois signeraient directement que Hughes fasse une saison à la Maier et qu'après, il redevienne entre guillemets normal, quoi. Si tu peux avoir un titre,
Effectivement.
je pense que dans la balance, c'est pas mal comme résultat.
Alors, totalement.
Je suis assez d'accord avec toi. Mais finalement, et on en parlait lors du dernier épisode, de l'aspect, Lausanne a plus d'options que Fribourg sur cette série. Et ça se retrouve aussi devant le filet finalement. Parce que justement, on en avait parlé au début de la série, qu'au moment où on voit l'alignement du premier match de la série et on voit Kevin Page devant le filet à Fribourg, match gagné par Fribourg, mais à aucun moment on a mis en cause ce choix, ni même la performance de Page qui était tout à fait à la hauteur d'une demi-finale de National League. Mais ça a permis justement d'avoir peut-être un Connor Hughes dans de meilleures dispositions pour la suite de la série, là où, comme tu l'as dit très justement avant, Chris, et pour les Fribourgeois, on parlera un peu plus de Fribourg-Gotteron un poil plus tard dans l'épisode, on va couper ça en deux, disons. Mais cette option qu'a eu Lausanne, devant le filet, mais pas que, parce qu'aussi, ils ont alterné les étrangers à l'aile avec Salomaki et Kovacs qui ont joué tour à tour. C'est finalement ce qu'on disait. Est-ce que Lausanne n'est pas juste un peu plus de profondeur? Et quand tu arrives à museler les premières lignes adverses, bah au final, ça peut faire une différence énorme dans une série.
Bah, j'ai regardé le top 9 de Lausanne lors du dernier match, notamment. Il a bien réparti les temps de jeu. Alors que du côté de Christian Dubé, on pourrait aussi parler de Ward versus Dubé qui... Il y en a un qui a gagné finalement ce duel des coachs aussi. Les temps de jeu étaient... Il y avait plus d'options du côté lausannois, c'est-à-dire vraiment, il tournait avec ces trois lignes. Et j'ai aussi regardé le temps de jeu médian des shifts. J'ai trouvé ça... Je voulais juste avoir une petite confirmation. Hein. Un temps de jeu médian des shifts à 5 contre 5, parce que sinon, ce n'est pas forcément très intéressant avec les powerplay, les boxplay, mais à 5 contre 5, au niveau des défenseurs, et je prends simplement le top 4, hein, on a Gunderson à 53 secondes, Borgman à 52, Diaz à 48 et Streulé à 52. Et on a Glauser à 41,6, Juice à 40, à peine à 41, Pilot à 40 et Frick à 38,6. Donc, il y a entre 10 et 12 secondes d'écart où il passe un peu plus de temps. Au final, on peut avoir Gunderson à 25 minutes et Jones à 25 minutes, mais pas sur un même rythme. Et je me dis que la longueur des shifts, à force, ça peut être aussi une petite perte de lucidité dans le déroulé du match.
Ces chiffres-là, c'est sur la série ?
C'est sur la série, ouais. J'ai pas pris le plus loin parce que. Ah, tu me diras, c'est 5 matchs. Hein.
Je savais pas si c'était sur le dernier match ou si c'était sur la série.
Non, sur la série. Mais on a un raffle à 40 secondes. On a un Dido à 53. Alors on sait que Dido a tendance à traîner un peu la patte des fois. Mais voilà.
Il a 10 secondes pour rejoindre son bout. Okay.
Des fois.
Voilà. Ce que je pourrais quand même voir comme... c'est intéressant comme analyse. Le seul counterpoint que je pourrais voir, c'est que si tu regardes la physionomie des matchs, c'est très, très souvent Lausanne qui a mené au score et Fribourg qui a dû courir après le score. Ce qui fait aussi qu'à un moment ou un autre, c'est plus facile, entre plein de guillemets, mais c'est plus logique de peut-être plus pouvoir faire tourner et moins devoir compter sur ton top 6 ou ton top 4 défensif si tu veux vraiment revenir au score que si tu tiens un score. Je peux voir ça comme contre-argument, mais par contre, je te rejoins complètement et ça rejoint ce qu'on disait finalement que la profondeur lausannoise c'est mon argument depuis le début de la série et que la profondeur lausannoise fait la différence. Pour mémoire, je mets Lausanne 4-2, je pensais pas 4-1, mais je voyais plutôt Lausanne s'imposer dans cette série. Donc on dit assez quand on fait des pronostics foireux, on a aussi le droit de dire quand on fait des pronostics justes, c'est pas interdit. Toi Chris, je me souviens honnêtement plus, avant cette série t'étais aussi sur Lausanne gagnant, non?
Ouais, bah avant le début des playoffs, j'avais pronostiqué Zurich-Lausanne en finale, donc je suis assez content. Là, ça me rapporte rien, ouais. Donc donc c'est juste la fierté là. Mais en fin de saison, j'ai quand même, je me suis dit cette année ils vont nous faire quelque chose Lausanne, parce que ouais, ils ont déjà réussi cette meilleure saison régulière de leur histoire. Ils dégageaient quelque chose aussi dans le jeu. De mémoire, franchement, peut-être qu'elle est défaillante, mais je ne me souviens pas avoir vu Lausanne aussi bien jouer, que ce soit en sortie de zone, à la relance, dans le jeu à 5 contre 5, une possession de puck de tous les instants, quasi en zone offensive aussi, ça tourne, et c'est incroyable le contraste avec rien que la saison dernière, peut-être. Du coup, ouais, je sentais vraiment quelque chose, et on parle aussi de progression collective, mais surtout aussi individuelle de certains joueurs. Sous Ward, ça a été assez impressionnant, la métamorphose de certains joueurs. Et qu'on voit qu'en fait, quand ils sont en confiance, ça reste des bons joueurs. Et, alors peut-être qu'ils ne méritent pas tous le salaire qu'on leur a proposé à l'époque, mais force est de constater qu'ils sont quand même... ils répondent aux attentes. Et du coup, contre ce Fribourg-là, je me suis dit, il y a quand même sur le papier, quand on compare les défenses, par exemple, il y a quand même trois bloc défensif costaud à Lausanne, alors que rien que le premier match, quand il n'y avait pas de gaz à Fribourg, on voit que c'est tout de suite un peu plus. Ouais, ça, les forces, elles sont assez vite réduites, quoi. Et offensivement, c'est vrai que bah, il n'y avait pas Almand au début de la série en plus, mais il y a quand même trois grosses lignes qui peuvent tour à tour faire la différence. D'ailleurs, chacune leur tour qu'on fait gagner des matchs à Lausanne, chacune a un peu eu son match où ils sont sortis. Ouais, ils sont sortis de la tête de l'eau. Et encore, juste ajouter en fait que Ward, je trouve qu'il a réussi vraiment à donner à chacun un poste qui lui est, dans lequel il arrive à s'épanouir en fait. Et ils vont pas aller faire autre chose que ce qu'on leur demande. Donc ça a souligné, je trouve.
Ouais, le box play aussi, on remarque, il y a un petit peu tout le monde qui tourne. Il peut mettre un peu Raffle, il peut mettre Rochette, il peut mettre il y a plusieurs joueurs qui viennent dans ces positions. Il y a deux power play. Ça contraste un petit peu avec Fribourg qui avait tendance à se faire surjouer un premier power play. Même si les résultats de Lausanne en power play ne sont pas exceptionnels, tu essayes de donner un petit quelque chose à tout le monde pour finalement maintenir aussi, je ne sais pas si on peut dire en playoff, maintenir les gens heureux, Ward a réussi quand même. Ward et Anderson et Huet, enfin tu l'as dit aussi pour les gardiens, c'est un tout d'un staff qui semble être assez au clair et avoir pas mal d'expérience de cette gestion des égos. Puis j'ai l'impression aussi qu'un ce qui est assez paradoxal finalement pour la suite, pour les saisons prochaines finalement, c'est de dire mais les joueurs qui font gagner en partie, il n'y a pas que, on a bien dit que c'était un tout, mais Raffle et Sekhach, par exemple, du côté lausannois, sont des joueurs, et on l'a aussi tout de suite dit, on dit, ah, cette demi-finale, on voit que contre Davos, des Raffle, des Sekhach qui sont un peu physiques, qui savent aller jouer de manière dure, mais de rester dans les limites, ça peut faire mal à l'équipe adverse. Et ces joueurs-là, on ne sait pas s'ils vont être conservés, et les noms qui sont annoncés pour remplacer certains joueurs, sont plutôt des joueurs finlandais. Est-ce que c'est des joueurs qui ont aussi enfin, en tout cas, cette façon de jouer un peu dur? On ne sait pas trop. Et les artistes suédois, les Sørensen ou bien Wallmark, ont été moins dominant finalement, et c'est presque comment dire, un testament pour dire faut avoir des joueurs, pas forcément les plus talentueux, mais des gars qui savent jouer un peu dur en playoff.
Ça aide clairement. Est-ce que ça aide clairement? Moi, on parle beaucoup des joueurs et du staff, etc. Moi, je voulais quand même juste mettre en avant, parce que justement, tu l'as dit avant, Chris. Visiblement, c'est des joueurs qui justifiaient peut-être pas le salaire qui leur a été donné à une époque, mais qui se restent de bons joueurs. Et en fait, finalement, je trouve que c'est très juste, parce qu'on l'a lu, c'était ce frère, c'est toi qui l'as écrit dans la bouche de Chris Wolff cette semaine, que malgré cette qualification finale, malgré tous ces matchs à guichet fermé durant les playoffs, etc., Lausanne va finir dans les chiffres rouges. Mais c'est
C'est ça.
totalement attendu, ça ne choque personne, et à aucun moment à Lausanne ils disent « Oh mon Dieu, tout est à brûler », pas du tout, ils s'attendaient à avoir ces chiffres rouges. C'est un processus de rééquilibrage, on va dire, de la masse salariale qui est en cours. Mais finalement, ces gens-là, quand on les laisse travailler, je dis ces joueurs-là, quand on les laisse travailler, restent effectivement de bons joueurs. Et je voulais juste mettre en avant justement le travail de l'ombre qui est fait par l'organisation, parce que si maintenant il y a les fruits qui sont en train de tomber sur la glace, c'est aussi parce que en coulisses, ça a vraiment bossé fort, fort, fort. Et ces gens, ils ne sont pas forcément suffisamment mis en avant. John Foust, oui, parce qu'on voit ce que lui fait, ce que il a réussi à dire. Ah ouais, on a envoyé Pounenovs à Rapperswil, ça fait une économie. Et si, et ça, on le voit, c'est tangible. Mais à l'arrière-plan, ça a beaucoup bossé pour restaurer l'image du Lausanne HC. Et c'est vraiment en train de fonctionner. Et il y a un détail qui est tout bête, mais je trouve que ces dernières années, on a beaucoup, beaucoup vu de gens qui disaient « Ah, mais le club est en train de perdre sa base. » Et Lausanne, c'est un club qui a toujours pu compter sur un soutien populaire fort. Et on l'a vu les dernières années. Alors oui, les résultats n'aident pas, Mais même à certaines époques, les résultats n'aidaient pas à Lausanne, mais le soutien populaire était présent. Et cette base-là avait été un peu oubliée. Détail tout bête, mais pour la finale, ils ont décidé, et je trouve que c'est une super idée, de favoriser les gens qui ont pris des billets en saison régulière. On va passer le détail. C'est écrit sur leur site internet. On a eu des articles soit sur le site du Matin, sur le site de Blic, sur comment. Mais concrètement, on favorise la base qui était présente au match et les supporters de ceux qui étaient là en début de saison et qui ont acheté des billets, qui ont la priorité pour les billets en finale. Les abonnés, certes, seront présents et l'abonnement est valable, ce qui était une belle évolution cette année. Mais aussi, on valorise la présence des gens au moment où c'était peut-être un petit peu plus dur, à savoir durant la saison régulière. Maintenant, c'est bien joli de venir à la patinoire. J'allais mettre attaqué aux politiciens, mais j'en ai pas vu trop que ça, pas vu tant que ça, donc ça va. C'est maintenant justement que c'est un peu facile de venir à la patinoire et dire youpi, Lausanne, c'est fort. Mais Lausanne n'a pas oublié ceux qui ont cru en eux, et je trouve que ça valide le fait qu'ils travaillent, je trouve, vraiment intelligemment en coulisses, et ça se voit là, quoi.
Ouais, c'est très juste. Autre bonne initiative, c'est pas nouveau, mais d'autres l'ont déjà fait. Mais je trouvais que c'était assez chouette de pouvoir aller voir les matchs à l'extérieur, ceux qui seront à Zurich, donc les matchs impairs, dans la patinoire, sur l'écran. Et ce que j'ai apprécié, c'est surtout entrée libre. Je trouve ça super classe de dire, pas encore faire payer, je ne sais pas, même 5 francs symboliques, tu sais, entrée libre. Vous venez, vous passez un bon moment, et puis vous êtes ensemble, il y a une sorte de communion, et puis sûrement qu'il y a des buvettes qui seront ouvertes, les gens pourront se restaurer. Je trouve ça assez chouette.
Je propose qu'on fasse une toute petite pause et on enchaîne rapidement, ou pas, on verra, sur cette finale, justement, contre Zurich. Qu'est-ce qu'on doit en attendre ?
On enchaîne donc sur cette finale, on se projette un peu, hein, ce duel des Lions. J'ai l'impression que au début ou pas au milieu de la série, quand on voyait de l'autre côté qu'il y avait déjà perdu 3-0 pour Zurich et que la série était à 2-1 entre Fribourg et Lausanne, le consensus, on va dire, dans la presse et dans les gens, dans les patinoires, c'était un peu oh, bon, ben, peu importe celui des deux romans qui va gagner, de toute façon, il va aller se prendre un 4-0 en finale à Zurich. Et...
On parle pour toi, là.
Non, c'était quand même... Souvent, on entendait les gens comme ça dans les trucs dire... Ouais,
les gens ne disent pas le consensus dans la presse, par contre.
C'est en discutant avec des confrères aussi, hein, c'était un peu le... surtout après le très, très, très long match qui s'est terminé à la 107e. Mais après avoir vu cette qualification lausannoise, j'ai un peut changer mon avis aussi. Je pense que Lausanne a le moyen d'aller en gagner une. Mais je mets quand même Zurich favori malgré tout.
Toi, tu la vois comment tu l'anticipes comment cette finale, Chris ?
Moi, je pense déjà que ça sera plus serré que si c'était Fribourg. Parce que justement, ce côté physique qu'on a parlé tout à l'heure... avec un raffle, un C-catch, etc. Ça, je pense que ça peut embêter un peu quand même Zurich, qui n'a pas eu beaucoup d'adversité, comme soulignait Damien Ria après l'acte 5. Et surtout, c'est un peu des morts de faim, quoi. Lausanne, j'ai l'impression, là, ils sont un peu en mission. Ils n'étaient pas, en fait, soulagés ou contents d'être en finale. Ils ont encore envie d'aller plus loin. Et en fait, j'adore cette attitude. Et je les vois bien aller un peu les embêter. Et en fait, moi, j'ai une image assez qui résume un peu tout. C'est quand je vois Jason Fuchs aller foutre des boîtes dans les bandes, je me dis, ah là, il se passe quelque chose, parce que c'est pas du tout le type de joueur auquel tu t'attends. Et en fait, sous l'impulsion de Raffel, j'ai l'impression que avec son leadership, il arrive quand même à emmener tout le monde. Et ouais, c'est quelque chose qui devrait un peu, je pense, embêter Zurich, ce côté un peu gratteur, quoi.
Là où je te rejoins par rapport à la mission, c'est quelque chose que c'est ton collègue Cyril qui l'avait écrit, sauf erreur, avant la demi-finale. Et c'était une observation qui était très juste, j'ai trouvé. C'est qu'en gros, quand Fribourg s'est qualifié face à Lugano en quart de finale au match 7 à la maison, c'était vraiment soir de fête à Fribourg. avec plusieurs tours d'honneur, Di Domenico qui vient à genoux devant le COP, célébrer, etc. C'est certes des images qui sont tout à fait chouettes et qui sont plaisantes à voir dans l'absolu, mais j'ai l'impression que quand Lausanne a gagné son match 7 également à la maison et contre le HC Davos, il n'y a pas eu ça, il n'y avait pas cet aspect on est arrivé là où on voulait. Je ne dis pas que Fribourg était là où il voulait, mais il y avait plus de soulagement côté fribourgeois, c'est genre ça. Ouf, on s'en est sorti. Tandis que côté lausannois, c'était un peu le job est fait, next. Et je trouve qu'il y a la disparité entre les réactions d'un côté et de l'autre est assez marquante, surtout à la lumière de la demi-finale, en fait.
Bah après, j'aime pas trop quand on fait du révisionnisme, tu vois, parce qu'après, on va se dire, mais t'as raison sur le. J'ai l'impression, et on l'a aussi dit avec Raffle, qu'il incarne assez ce côté mission. On était avec Chris d'ailleurs lors du match, c'était le match 4, hein, quand on l'a pris à l'interview. Il était avec son hoodie, il était avec sa casquette, il était presque. Il était super fermé. Il s'est excusé d'avoir fait une réponse un peu bateau d'ailleurs. On lui a dit non, mais il n'y a pas de problème. Il était vraiment à se dire, il n'y a rien qui est fait, les gars, quoi. On voyait toute l'expérience d'un gars de 35 ans qui est là. Moi, je veux aller plus loin, donc tant que ce n'est pas fini, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. C'est un peu le sentiment aussi avec Ward et avec les autres intervenants lausannois de dire vous faites votre job, nous on le fait, on sait ce qu'on vaut, on sait où on va, en fait. Et c'est un peu le sentiment que j'ai.
Si on se projette justement aussi, tu disais, Chris, que Lausanne pourrait plus embêter Zurich que ne l'aurait peut-être fait Fribourg. Là où je pense que ça, ce qui pourrait être compliqué pour Lausanne, c'est que Zurich à la fois est une équipe qui est capable de jouer très très physique. On le sait avec certains joueurs, avec une défense qui est très solide, avec des gros gabarits, mais qui est également ultra technique, en fait. Et t'as des joueurs, on va pas citer tout le monde, hein, mais rien qu'Andrighetto et Denis Malguin, qui sont des joueurs suisses qui viennent apporter une sacrée expérience et une sacrée qualité offensive, mais malgré ça, c'est une équipe qui est capable de jouer physique. Et c'est, je pense, clairement sur cet aspect-là qu'une partie de cette finale va, selon moi, se jouer.
Bon, après, le motif d'espoir, enfin, il faut voir en fait le verre à moitié plein alors qu'il est à moitié vide, donc, concrètement, mais c'est qu'ils ont certes gagné que un match sur les quatre en saison régulière, mais c'était vraiment quatre matchs très serrés. Et je me souviens, j'étais à Zurich le dernier match de la saison régulière, quand ils ont perdu 3-1, en fait, ils n'ont pas vu le puck de tout le match, mais en fait, Zurich a vraiment fait la différence dans les derniers instants. Et je me dis, on parle tout le temps de détails en play-off. Et maintenant, ils sont en plus habités par une confiance. En fait, que ce soit contre Fribourg, ou contre Davos, dès qu'il y avait des vents contraires, hein, ils arrivaient quand même à chaque fois à s'en sortir. Donc, avec cette confiance qui les habite, je me dis pourquoi pas réussir à gagner d'un but, quoi. Ils sont parvenus à aller gagner une fois à Zurich en saison régulière. Pourquoi pas, là.
Mais...
En tout cas, ils ont zéro pression. Donc, aussi. Ça peut être un aspect aussi décisif.
Alors, complètement.
J'allais justement utiliser le terme pression à l'instant. Désolé pour ceux qui nous écoutent. Habituellement, on se coupe un tout petit poil moins la parole parce qu'on est les uns à côté des autres. Donc, on peut plus facilement communiquer avec les yeux, on va dire. Et là, on est un peu désolé, aussi moi-même désolé de t'avoir coupé deux fois la parole de suite, Jean-Fred.
Non, non.
Mais j'allais justement utiliser le terme pression et elle est immense à Zurich. Et là, je me réjouis justement d'aller prendre la tension du côté de Zurich lors de l'entraînement auquel je vais assister juste après. Mais Zurich n'a pas le droit à l'échec. Là où je ne dis pas que Lausanne a réussi sa saison, parce que si on a le malheur de dire ça à quiconque à Lausanne, non mais c'est bon, la saison elle est réussie, je pense qu'on se fait ramasser, à raison. Mais par contre, si une des deux équipes termine sur une défaite cette finale et pourra avoir cette saison la baiser comme un cuisant échec, ce sera clairement pas Lausanne, ce serait clairement Zurich en deux dans leur nouvelle patinoire et avec toutes les attentes que ça a déjà généré, attentes déçues de l'année passée. Ils ont clairement pas le droit à l'échec. La pression supplémentaire, c'est que ça fait depuis le début de saison que je dis que j'ai mis un impôt sur Zurich. Donc là, bah, ma foi, j'espère que ça ne va pas leur mettre une pression supplémentaire non plus. Mais non, je rigole évidemment. Blague à part, pour ceux, on ne va pas faire de capsule Paris sportif, mais pour ceux qui avaient parié de Zurich avant la saison, n'hésitez pas à réfléchir en termes de gains assurés. On donne un exemple tout bête. Vous avez mis 10 francs sur Zurich à 6,5 avant la saison, ce qui fait 65 francs de gains. Le Zan est à 2,65 sur la Loro pour gagner le titre actuellement. Oh, bah, si vous mettez aussi un petit quelque chose sur Lausanne, bah, peu importe le résultat de cette finale, il y a un gain qui est assuré. C'est quelque chose que je me tâte à faire, honnêtement, pour vivre une finale sans pression, même si ça m'est jamais ce genre de choses. Mais à part ça, je pense que c'est pas inintéressant d'y réfléchir suivant les petits paris que vous avez mis sur Zurich pour être sûr d'avoir un gain assuré.
Ouais. Mais pour revenir à la pression, tu disais elle est gigantesque, mais c'est clair parce que on a un entraîneur qui a déjà gagné avec Zurich, Mark Crawford. On a un super gardien. Tu parlais de la défense. Bah là aussi, on avait mis en avant la défense aux Zonas. Ils sont quand même solides. Hein, mais entre Kukan, Lettonen, Weber et Marty, rien que ça aussi. On parlait des internationaux. Il y en a quand même 2-3 aussi à Zurich. Je pense que, ouais, tout le peuple zurichois se dit, bon, bah maintenant, c'est bon. Ça fait depuis quoi, 2018, qu'il n'y a plus de titre, 6 ans. Ouais, c'est bon, merci. Maintenant, c'est un peu logique. Il y a cette blessure encore ouverte du 3-0 contre Zug qui se termine en 4-3 incroyable. Donc, cette pression-là, face à un Lausanne qui est conscient de ses moyens, qui j'étais pas là pour le dernier match, mais je vous ai lu notamment Damaria qui dit bon, moi, j'ai jamais vécu dans un groupe aussi serein finalement, hein, qui sont où tout semble aller. Je me réjouis vraiment de voir et je me dis que si Lausanne va s'imposer lors du premier match, c'est un peu toujours ça, hein, Greg, tu disais aussi les matchs impairs, gagner ce premier match, ça peut donner quelque chose d'assez sympa pour lancer cette finale, je trouve.
Ouais, et puis pour la première fois, ils ont 5 jours de repos à Lausanne. Ça va leur faire un peu du bien de régénérer les corps. Et... ouais, à voir s'ils ne seront pas rouillés le premier match, du coup.
Ouais, non. Mais t'as raison.
Par contre, Greg, t'as une mission ce matin, c'est de voir s'ils ne font pas les tests sur le Vidéotron avec le Schweizermeister, hein, à Zurich.
Premier, je regarderai.
Merci.
Mais ça, c'est plutôt lors des actes 4 qu'ils aiment bien sortir ça. Pour ceux qui ne se souviennent pas, par hasard, hein, c'était Karl Klingberg, si je ne dis pas de bêtises, qui avait posté une photo où il se marrait avec le doigt en montrant les tests, effectivement, pendant l'échauffement, où c'était écrit Schweizermeister, parce que malheureusement, ils étaient un peu obligés aussi, si jamais il y avait une cérémonie en cas de remise de la coupe, et ils s'étaient bien amusés de ça, et on sait que finalement... je l'avais dit, hein, de 3-0, on était passé à 4-3 pour Zug. Donc, c'était bien retourné contre eux, cette histoire-là.
Effectivement. Nous, je ne sais pas si on referait un épisode avant le début de la finale, mais ce que je te propose, c'est qu'on parle un peu de Fribourg, vu qu'on a bien fait le tour du dossier lausannois.
Ouais, alors j'avais quand même juste une question qui concernait Lausanne. Je me dis que c'est... pas trop bête de la placer ici.
Avec plaisir.
Bon, c'est Kevin Buffard. Hein. Bonsoir à vous deux. Tout d'abord, merci pour les épisodes qui sont très souvent intéressants. Je suis fan de Genève et donc en vacances de hockey. Mais une chose m'étonne dans votre dernier épisode, vous ne parlez pas de Théo Rochette, qui est un rookie et qui va porter le casque à flammes ce soir. Donc c'était avant le dernier match. Ce qu'il fait cette saison est impressionnant et passe presque sous le radar à peu près partout. Est-ce à cause de son nom, de sa deuxième nationalité ou juste un hasard selon vous? Bon match et bonne soirée, Kevin.
Merci, Kevin, pour la question. Moi, je pense qu'on a été... presque trop bien habitué cette saison où en fait il y a eu pas mal de points d'interrogation le concernant avant son arrivée, puis il les a vite un petit peu balayés et en fait ça, c'est presque devenu normal qu'il soit bon, et je pense que sa question elle est intéressante et pertinente. aussi pour nous en tant que journalistes de se dire, mais en fait, c'est vrai, quoi, il vit sa première saison dans l'élite, on l'a assez dit. Et en fait, je me demande, moi, j'ai lu la question avant de réfléchir, et moi, je me la suis posée aussi. Et je me demande, à l'inverse, est-ce qu'on ne s'est pas un peu dit, on en a tellement parlé par le passé que maintenant, il faut aussi faire attention de pas exagérer autour de lui. Tu vois, quand il était junior, moi, oui. Je me rappelle être allé faire un sujet chez lui, sur son dernier match avec les U15 du LHC. C'était le dernier match dans Malais, on va dire 1.0, mm-hmm. Parce qu'un blasphème de ça. Après, ils sont au Canada, on en a parlé tout le temps. Et en fait, je me demande s'il n'y a pas une sorte d'effet de contrebalance. Mais effectivement, ce qu'il fait durant ces playoffs, c'est bluffant. Je n'ai pas d'autres termes.
À 22 ans.
Et à 22 ans, il est complètement à niveau. Et effectivement, chapeau, parce que j'ai un peu l'impression, finalement, c'est un peu comme Hughes. On se dit, jusqu'ici tout va bien, sans citer un film français des années 90. Jusqu'ici tout va bien, mais jusqu'à quand, en fait? Et finalement, ça ne s'arrête pas. Et clairement, chapeau, quoi. Toi, Chris, tu as aussi cette impression, ou toi aussi, tu as l'impression qu'on n'en parle pas autant, toi-même, dans tes écrits?
Non, écoute, moi, je trouve qu'on lui donne pas mal la parole, surtout que c'était le petit nouveau lausannois auquel le public peut à nouveau s'identifier. Mm-hmm. Donc, j'ai pas mal parlé avec lui quand même cette saison, je trouve. Après, malheureusement pour lui, entre guillemets, les résultats positifs du club faisant, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'autres héros, on va dire, après chaque match, hein. C'est pas tout le temps le même, donc ça fait qu'on va pas parler que à lui après chaque match, et tant mieux pour le lecteur aussi. Mais effectivement, on avait quelques doutes avant le début de saison, parce qu'il avait joué seulement en junior jusqu'à présent, et pour cette première saison avec les adultes, il a quand même réussi, je crois, 30 points en saison régulière, porté le casque de top scorer en play-off, il a eu prolongation de contrat, une première convocation en équipe de Suisse. Je pense que même lui, il ne s'attendait pas à vivre une saison à ce point aboutie, quoi. Et puis, du coup, il joue sur la première ligne, quoi. Donc, c'est assez fou comment il a... Ouais, la manière dont il a réussi à appréhender cette première saison en National League.
C'est très juste.
Et j'ajouterais qu'il joue sur la première ligne, certes, il joue hors de position, que c'est quand même un centre naturel qui a été exilé sur une des ailes, et accessoirement, il joue aussi beaucoup dans toutes les situations, donc il joue en box-play, ouais. Il joue en power-play, et j'ajouterais qu'il joue encore en fin de match face à la cage vide adverse, et ça, c'est une de mes théories, mais je ne suis pas le seul à la faire, mais ne minimisons jamais les buts dans la cage vide, ne faisons jamais cette erreur-là. Parce que oui, c'est un peu plus facile de marquer dans la cage vide, mais c'est plus difficile d'obtenir la confiance pour être sur la glace quand la cage adverse est vide. Et il a obtenu cette confiance-là pour être dans ces moments-là sur la glace. Et finalement, c'est un témoignage aussi de la confiance qui lui est accordée par son coach.
Très juste. Désolé d'avoir posé cette question sur Théo, mais c'était intéressant. Parce que ça fait qu'on doit un peu rusher pour parler de Fribourg. Si on revient sur... Gauthieron, est-ce que c'est un échec? On parlait avant des potentiels échecs. En étant deuxième de la saison régulière, finalement se faire éliminer en quart de finale, en demi-finale, j'ai pas l'impression que c'est un si grand échec que ça. Est-ce que c'est plus la manière qui fait que les attentes étaient très grandes du côté de Fribourg et que on se rend compte que... Après, on ressort les litanies, mais il manquait telle et telle chose. Ah, bah finalement, il aurait fallu jouer comme ci, comme ça. Et que du côté de Fribourg, on se dit, encore une fois, on passe pas loin, mais on voit quand même qu'il manque quelque chose.
Alors, pour moi, c'est un énorme échec. Surtout quand tu perds contre Lausanne, qui a jamais atteint une finale, qui avait disputé jusqu'à présent qu'une demi-finale dans son histoire. Fribourg, au final, c'est, si je ne fais erreur, une victoire en 8 ans en demi-finale. Donc pour moi, en plus, ils n'étaient même pas proches de se qualifier pour la finale, même si tous les matchs étaient serrés. Il a tout le temps manqué quelque chose. Ils ont quand même pris quatre défaites de suite pour finir leur saison. Ils avaient l'avantage de la glace, ils n'ont pas vraiment su en profiter. Et puis des leaders aux abonnés absents quand même. Donc ça faisait beaucoup dans ces conditions pour passer en finale. Et peut-être qu'il y aura des décisions à prendre ces prochaines semaines à la BCF Arena. Je ne sais pas, peut-être mettre un huitième assistant ou un 15e directeur sportif, je ne sais pas.
En fait, je pense que là où tu as raison, c'est que le nom de l'adversaire doit, à mon avis, influer sur la lecture qu'on fait de ce résultat-là. Si Fribourg perd en demi-finale contre une équipe comme Zurich, tu dis, ouais, bah, c'était l'armada zurichoise, on ne peut pas faire grand-chose. En plus, après un quart de finale en 7 matchs, ah là là, on a perdu beaucoup d'énergie. Un peu les théories qu'on avait entendues il y a 2 ans, après la qualification et l'élimination contre Zurich en demi-finale 4-0. Là, c'est quand même différent et forcément la question numéro une qui doit se poser, parce que la question peut pas être sur le directeur sportif qui vient de changer, c'est Christian Dubé. Et t'ironisais avant Chris sur le Xème assistant, c'est une vraie question. Cette année, ils ont rajouté un assistant. Je pense que c'était une bonne idée parce que c'était le dernier club qui ne fonctionnait qu'avec un seul assistant. Il y a Patrick Camon qui arrive et les attaquants. Fribourg a la meilleure attaque de saison régulière. Par contre, Fribourg s'est fait, je pense, outcoacher, je pense qu'il faut le dire, en finale, en demi-finale contre le Lausanne HC. Et quels enseignements en tirer? Est-ce que Christian Dubé doit rester en poste? Et finalement, la question, elle est centrale parce que il lui reste une année de contrat à Christian Dubé. Est-ce que tu pars en disant bénéfice du doute au coach, en même temps, il a encore un contrat, on le garde? Moi, je suis pas sûr qu'il va vouloir entrer dans cette saison. Sans un contrat au-delà de ça. Et à l'inverse, moi je suis pas sûr que Gauthieron se dise, mais est-ce que vraiment, si on continue avec Christian Dubé ou pas, est-ce qu'on doit pas décider maintenant, quitte à, admettons que la décision soit on ne le conserve pas, on gagne une année sur la suite finalement, mais à quel prix? Et finalement là, je pense que c'est des questions qui sont en train de se poser dans les bureaux de la BCF Arena. C'est à la fois, j'ai fait un commentaire là autour, et je pense que c'est vraiment un dilemme, parce que les résultats en saison régulière sont là, mais au final, on dira, ouais, mais c'est bien joli la saison régulière, mais c'est au moment des playoffs que ça commence vraiment à compter, et Gauthieron n'a pas franchi un palier en playoff du tout.
C'est très, très difficile, parce que en plus, si tu changes maintenant, la personne que tu vas mettre en place, elle n'a pas choisi cette équipe. Donc, il y a le fait d'arriver avec des, je vais dire des armes, mais j'aime pas cette analogie, mais tu arrives avec des gens que tu n'as pas choisi, c'est pas le défenseur tel et tel, c'est pas l'étranger XY, et l'autre doit composer avec. Alors évidemment qu'on se dit, alors si tu veux garder un truc in-house, un peu de la maison, tiens, Patémon, par exemple. On avait une question, on n'a jamais pu y répondre d'ailleurs, ça me fait penser, parce qu'elle concerne un assistant de Gauthieron. C'est Pavel Rosa, et c'est quelqu'un qui nous demandait, mais finalement, pour Bienne, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un Pavel Rosa? Et on n'a jamais eu l'occasion de parler de cette chose-là. Mais pourquoi pas Pavel Rosa en tant que head? Mais peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que lui n'a pas envie et qu'il se sent bien dans ce rôle d'assistant, hein, il faut être clair.
Alors, il se voit, à mon avis, il se voit tout à fait entraîneur principal dans un avenir. Alors ça, le timing, je ne le sais pas, mais je crois vraiment que c'est ce à quoi il se destine et il se sent destiné. Donc, c'est vraiment pas une mauvaise idée. En tout cas, son nom n'est pas absurde de le jeter sur la table comme ça. Par contre, là, le point alors, où je te rejoins un petit peu, pas vraiment, c'est sur l'entraîneur qui choisit pas ses joueurs. Dans un monde idéal et dans une organisation saine, c'est pas l'entraîneur qui choisit ses joueurs. L'entraîneur, il fait jouer les joueurs et le directeur sportif met dans les mains de l'entraîneur les joueurs pour qu'ils puissent les faire performer. Mais Jeff Ward n'a pas choisi son équipe.
Ouais.
Jeff Ward a trouvé un moyen de faire fonctionner cette équipe. Et moi, je trouve que c'est dans ce sens-là que ça doit se passer. Et en un sens, ça me semble même logique de dire, voilà, mon équipe, elle ressemble à ça. OK. Quelle est l'identité que je lui ai donnée ou que je veux lui donner en tant que directeur sportif? C'est ça. OK. Du coup, c'est qui l'entraîneur qui va maximiser le genre d'équipe que je veux avoir sur la glace? Et c'est pour ça qu'à mon avis, si tu dois changer, au contraire, d'avoir une équipe qui est en place, finalement, c'est presque plus simple pour l'entraîneur, pour choisir ton entraîneur derrière.
Bah, finalement, mais à Fribourg, le truc, c'était toute cette réflexion-là, c'était Christian Dubé qui se l'amenait pour Christian Dubé, au final.
Absolument.
Avant qu'il change puis qu'il mette Gerd Sennheisern à sa place, c'était... C'est pour ça aussi que c'est un tout petit peu plus compliqué d'analyser ça. C'est parce que c'est lui l'architecte et à la fois lui le pilote. C'est le concepteur de la voiture et à la fois lui le pilote. Donc, c'est clair qu'il est un plus exposé par essence, finalement.
Voiture, pilote, essence. Voilà. J'aime bien tout ce que tu nous fais.
Le pire timing, en fait, pour Fribourg, ça serait de garder Dubé jusqu'à la fin de son contrat, mais d'annoncer... entre deux, qu'un nouvel entraîneur va débarquer, quoi. Ça, tu vois, comme ils ont un peu fait pour Bikoff, en annonçant au milieu de saison qu'ils ne vont pas le garder. Ça, je pense, pour moi, ça serait la pire chose à faire.
À part ça, on a d'ailleurs une question concernant, ça me fait penser, concernant Bikoff. Quelqu'un qui a dit, est-ce que peut-être maintenant que on peut mettre Dubé loin et prendre Slava comme coach, il était sur le plateau des mini-pucalistes après le match. D'ailleurs, tu étais à côté de lui, Greg. On peut imaginer Slava Bikoff enfin entraîneur de Gauthieron ou ça restera qu'un rêve éloigné?
Il a fini quand sa carrière, Slava Bikoff? Parce qu'il me semble que depuis, la discussion Slava Bikoff entraîneur de Gauthieron est là. Donc, pourquoi pas continuer cette discussion encore un moment? Ouais, ça fait sens. Mais après, c'est... Écouter Slava Bikoff parler de hockey, honnêtement, c'est un bonheur. Je pourrais m'endormir en l'écoutant parler de hockey sur glace. C'est quelqu'un qui parle bien. Alors, il y a un accent qui est forcément chouette à écouter. Puis en tant que fan de hockey, t'as grandi en entendant parler Slava Bikoff. Mais l'odeur d'être sur les pucalistes, sur le plateau à côté de lui, puis de l'entendre justement avoir un avis très clair sur la question, de pas être très tendre avec Christian Dubé, avec le coaching staff en général. Il a pas nommé Christian Dubé, mais les décisions du coaching staff. En même temps, il est jugé parti concernant son fils, mais je crois qu'il est c'est quelqu'un d'assez, comment dire, lucide sur le et il dirait pas il faut donner encore 50 contrats à Andrei juste parce que c'est mon fils. C'est quelqu'un d'intelligent, mais non, moi, j'arrive pas à imaginer cette solution-là comme étant possible. Slava Bikoff à Fribourg, mais on a eu des choses plus surprenantes dans ce milieu du hockey sur glace. Mais j'y crois pas trop. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'une décision, on va dire, claire, elle aussi doit tomber très rapidement concernant l'avenir de derrière le banc. Pour mémoire, lundi soir au Pucaliste, Hubert Weber me répond à une de mes questions. Oui, selon moi, on devrait prolonger Christian Dubé. Est-ce que les deux défaites qui ont suivi changeraient sa position? En même temps, ce n'est pas lui qui décide. Lui, il est président. Il préside, disons. Il n'est pas là pour prendre des décisions techniques, du moins dans un club qui fonctionne bien. Ce n'est pas au président de décider qui est l'entraîneur. Ça va être intéressant. Je vais me rendre aux conférences de presse d'après-saison qui ont lieu samedi à Fribourg. Et c'est là que toutes les questions vont se poser. Et moi, je propose qu'au prochain épisode, on puisse en reparler une dernière fois de Fribourg-Gotteron, du coup.
Ouais, moi, j'ai juste un truc à dire pour l'avenir. Ça n'a rien à voir avec qui sera en poste. C'est juste simplement une question de calendrier. On a aussi oublié de mentionner que le Lausanne Hockey Club s'était qualifié pour la Champions League, ce qui fait qu'on aura quatre clubs suisses, puisque Genève est tenant du titre. Donc Genève, Fribourg, Lausanne et Zurich. Ce qui est assez cool, c'est que ça fait trois clubs romands, donc pour nous c'est un peu plus chouette à suivre. Mais à cela s'ajoute le fait que Fribourg va encore disputer non seulement le championnat, la Champions League et encore la Coupe Spengler. On a parlé de la profondeur de banc qui était un poil limite en play-off. J'ai vraiment peur que là, on demande énormément avec des étrangers qui sont les mêmes finalement. Alors si on se trouve qu'ils ne sont pas assez percutants, qui n'ont pas ce profil de joueur de play-off, je me fais un peu de soucis pour Fribourg. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Bon, surtout que la moyenne d'âge de l'équipe est super élevée. Ils avaient essayé un peu de tenter des paris comme Diaz, Berra et puis plusieurs autres joueurs. De joueurs expérimentés c'était un peu un one shot sur quelques années pour essayer d'obtenir enfin ce premier titre, et Du coup, une fois que tu as raté les cibles, c'est un peu compliqué pour l'avenir. Alors, effectivement, peut-être pour la Coupe Spengler, ils vont rappeler Bykov pour 5 matchs. Et puis comme ça lui fera une belle sortie, aussi belle que celle de c'était mercredi. Magnifique d'ailleurs, cette communion à la fin du match avec
Absolument.
un Bykov
Très beau moment.
très ému d'ailleurs. Non, mais sinon, pour l'avenir, il va falloir aussi penser à un peu rajeunir cet effectif, effectivement.
Rajeunissement qui est en cours justement avec notamment un Maximilian Strelley qui est selon moi amené à avoir un joli rôle dans cette équipe. Santiago Neff qui débarque, Jérémy Gerber qui est un joueur assez jeune, donc c'est en cours. Et justement, pour moi, ça implique d'autres questions et on vient de les évoquer, mais si tu rajeunis ton équipe, si tu relances un nouveau cycle, est-ce que ce nouveau cycle il doit avoir le même, la même personne au guidon, on va dire? Je ne sais pas. Ça fait partie de la réflexion globale qui doit avoir lieu du côté de Fribourg actuellement et qui a lieu, j'en suis convaincu, à Fribourg actuellement. Bon, au terme de cet épisode numéro 35, comme promis, on a parlé un peu plus de Lausanne avec Chris. Merci Chris de nous avoir accordé un petit peu de temps.
Merci à vous pour l'invitation, c'était sympa.
Merci Chris.
Et on se permettra de te ressolliciter une fois durant la finale si t'as pas trop à écrire.
Bah avec grand plaisir. Je peux déjà vous annoncer une victoire des Lions en finale, donc
Bien joué.
n'hésitez pas à me suivre.
Parfait, bah merci beaucoup d'avoir été présent. Nous, on sera très probablement, on ne sait jamais, on peut se laisser surprendre par nos agendas, très probablement présent lundi pour un épisode de pré-finale. On y verra un peu plus clair. Et là aussi, on y verra un peu plus clair, peut-être sur Fribourg, vu qu'il y aura eu les conférences de presse du week-end. Donc, peut-être deux, trois théories à faire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour savoir si et quand a lieu le prochain épisode. D'ici là, bon week-end de repos grâce à Lausanne. On a tous un week-end un peu plus tranquille.
C'est juste.
Et à bientôt.
À bientôt.